Je vous remercie de m'avoir invité. Je voudrais m'excuser parce que, enfin, vous priez de m'excuser parce que le travail que je présente est un travail, un work in progress, un travail qui se fait en ce moment. Et il n'est pas fini d'ailleurs, dans un état d'avancement. Donc, sur tout un tas de questions, je n'ai pas les idées très 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 claires. Enfin, au contraire, le fait d'écrire mais les clarifie et même le fait d'exposer. Donc, je vous remercie d'ailleurs parce que donner l'occasion d'exposer, ce qui est toujours une bonne occasion, hein, pour se créer les idées. Alors, je pense qu'on est tous d'accord, d'une certaine façon, que la production du logiciel est au cœur de la production capitalistique aujourd'hui. Hein. Alors, mon problème fondamental, c'est comment est possible et dans quelle forme, comment se fait la soumission au rapport de production capitalistique dès la production du logiciel. Parce que cette soumission est toujours comme réacquise d'une certaine façon. Donc, la posture d'abord, la posture c'est la production d'abord et je dirais la distribution ensuite. Hein. Moi je suis un vieux marxien, hein, si on peut dire comme ça, donc ce qui m'intéresse c'est la production. Hein. La distribution de revenus ça ne m'intéresse pas. Enfin ça m'intéresse en deuxième, hein, comme effet. Donc, alors, il y a aussi des phénomènes qui sont apparemment inexplicables. Je vous les dicte. Hein. Exemple, l'entrée massive de ce qu'on appelle logiciel libre ou ouvert. C'est pas grave. Hein. Faut pas faire du juridique. Quoi. Le logiciel ouvert et libre produit, et la seule chose qu'il soit ouvert et libre qui est certaine, et qu'il est produit par un processus qui n'est pas soumis au rapport de production capitalistique. Donc, l'entrée massive de ce logiciel, par contre, dans la production, dire que les grandes entreprises, les grandes administrations, hein, à l'échelle mondiale, utilisent du logiciel qui n'est pas produit capitalistiquement. Deuxième phénomène, la cession de grandes entreprises capitalistiques comme IBM, par exemple, de logiciels sortis d'efforts de recherche et développement qui chiffrent à plusieurs millions, dizaines de millions, même centaines de millions de dollars, cession dans le domaine de l'ouvert ou du libre. Donc, abandon de propriété. Alors, évidemment, ça c'est quand même extraordinaire, parce que si on dit que d'un côté, la propriété intellectuelle est la source de l'avantage compétitif et de la valeur, bah, là il y a un phénomène étrange quand même. Mais d'un autre côté, un autre phénomène donc qui est totalement conflictuel avec celui-là, qui est le fait que Microsoft, qui est par contre une société qui base tout sur une forte posture de propriété intellectuelle et de logiciels propriétaires, comme on dit, et bien, elle a des taux de croissance, des taux de profit énormes, qui n'ont pas de comparaison avec les autres secteurs de l'industrie. Donc, tout ce monde-là, moi je fais moi, personnellement, je travaille dans l'informatique depuis des années, et bien, ce phénomène-là, j'ai des difficultés à le comprendre, globalement. Donc, cette réflexion est d'abord une tentative de... C'est ce qu'on appelle la crise du logiciel. La crise du logiciel, c'est quoi? C'est le fait que il y a une difficulté qui est largement constatée dans tous les secteurs à estimer correctement l'effort requis et la fiabilité du résultat de la production du logiciel. Alors, le grand public n'a pas... il a quand même un écho de cette situation quand on pense au logiciel de Microsoft. Hein. Il y a toujours des bugs, il y a toujours des trucs de sécurité, il faut attendre la fixe, il faut le service pack, il faut l'installer. Enfin, il y a toute cette histoire un peu névrotique et dans laquelle il faut installer tout ce genre de choses. Donc, et puis, le contenu de la prochaine version. On ne sait jamais quand elle va arriver, qu'est-ce qu'elle va contenir, pourquoi, comment. Il y a toujours des annonces contradictoires, etc. Le public a quand même un aperçu de ce phénomène. Si vous voulez, moi je cite là un rapport qui est très connu, s'appelle The Chaos Report, qui est fait par une société, de recherche de marché, dont les données présentées sont frappantes, je vous le résume brièvement. Donc aux États-Unis, en 1995, la dépense en développement logiciel a été d'environ 250 milliards de dollars. pour environ 175 000 projets. Alors, de ce projet-là, enfin, tout ça vu dans le temps, hein, 16,2% se sont terminés dans les délais et dans le coût, et avec satisfaction aux fonctionnalités attendues. 16%, à peu près. 52%, plus que 52%, se sont terminés avec un dépassement important, enfin, plus ou moins important. En fait, les dépassements moyens en coût est de 89%. C'est-à-dire, en moyenne, ces projets ont coûté le double de ce qui avait été. La dépense supplémentaire est estimée à 59 milliards de dollars. Hein, pour... Et puis, 31,1% ont été arrêtés en cours de route, les projets, et n'ont donné aucun résultat exploitable. Donc, ça a été une pure perte. Et là, sont partis en fumée, enfin en fumée, disons 80 milliards de dollars. Donc, vous imaginez, dans une autre industrie, le fait qu'on dit, on fait des immeubles, par exemple, bon, il y a 16% d'immeubles qui sont quand même ce qu'on attendait, il y en a 52 qui sont, ils ont coté énormément plus cher, puis ils sont pas vraiment ce qu'on attendait, et puis il y en a 31 qu'on n'arrive pas à les construire, c'est-à-dire on s'arrête avant, hein, mais pour des raisons, et qu'ils n'ont pas de raison de manque de financement, des raisons simples qu'on n'arrive pas, hein. Donc, comment dirais-je, beaucoup de solutions créatrices. Alors, en fait, cette situation était bien. Quel développement du logiciel, c'est une entreprise à haut risque. Hein. On ne sait jamais si on arrivera, et quand on arrivera, etc. Alors, depuis le début, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, cette crise existe depuis toujours. Depuis que le logiciel, qu'on a commencé à écrire du logiciel. D'ailleurs, des situations comparables à une grande banque française que je ne citerai pas, qui en 2000 a arrêté un projet sans aucun résultat après avoir dépensé 2 milliards de francs, d'anciens francs. Donc un projet de développement de logiciels, leur système d'information. Alors, la question qui se pose est, face à cette crise, il y a eu une discipline qui est née, qui s'appelle le génie logiciel, le software engineering. C'est tant d'ailleurs ce qui témoigne que la crise existe depuis longtemps. Et les exemples de faillites de projets que vous avez cités sont quand même récents. Donc ça veut dire qu'ils arrivent après 25 ans de l'existence de cette discipline. Donc cette discipline apporte des méthodes, hein, et prétend aussi, qui améliore certainement la façon de faire, mais elle prétend aussi d'apporter des méthodes pour estimer le logiciel. Estimer veut dire estimer l'effort, pouvoir planifier le projet et avoir une idée au moins... une bonne idée de la fiabilité du résultat, c'est-à-dire du nombre de dysfonctionnements que le résultat va provoquer, enfin, aura quand même gardé et qui vont nous embêter dans le futur. Alors, la question est, qu'on se pose, est-ce cette situation provisoire ou définitive? C'est-à-dire, c'est de la substance ou de l'accident, hein? Parce que, alors évidemment, les termes du génie logiciel vous disent, l'industrie du logiciel existe depuis 40 ans, c'est pas comme les ponts et chaussées existent depuis 5000 ans, donne-nous un peu de temps, on va arriver avec des méthodes aussi fiables que celles pour construire. Et il y en a d'autres, il y en a notamment un auteur américain, Lewis, c'est le premier qui a sorti la question, qui se dit non, peut-être il y a une raison fondamentale. C'est-à-dire que c'est pas une question de non-maturité, de la discipline, de jeunesse, de cette activité. C'est une question fondamentale. Il faut voir que les gens, les tenants du génie logiciel, ils vont quand même... c'est celui qui a conçu ce qu'on appelle le CRM, si vous voulez, que tous les industriels logiciels adoptent. D'ailleurs, vous savez, les Indiens, les fameux Indiens, les entreprises indiennes montrent toute une certification CMM. Ils ont pour montrer qu'ils sont aussi bons que les occidentaux. Donc, l'inventeur du CMM écrit que les concepts, je cite, hein, les concepts et les méthodes propres au contrôle et à la planification des processus industriels sont autant applicables à la production du logiciel qu'elles le sont à la production de voitures, de caméras vidéo. Donc, il va fort, hein. Alors, on se demande de quoi on parle, en fait. On parle de l'estimation. C'est quoi l'estimation? Est-ce que c'est l'estimation du logiciel? Pas question. Donc, je vais poser toutes les questions. Peut-on estimer a priori? C'est-à-dire, avant d'écrire un programme, la taille minimale du programme du logiciel qu'on va écrire. Peut-on estimer donc, d'une certaine façon, la complexité entre guillemets, hein, pour l'instant on ne la définit pas, donc on est censé implémenter, a priori. Peut-on estimer l'effort nécessaire au développement? Peut-on estimer cet effort en termes d'unité de temps employée par un programmeur moyen? C'est-à-dire dire, pour développer ce programme, il faut 10 hommes moins. Ça veut dire un homme pendant 10 mois. Peut-on estimer objectivement la productivité des programmeurs? Enfin, quel programmeur moyen? Comment on le calcule? Comment l'étalonne? Comment on l'estime? Quelle est la relation entre la productivité des programmeurs, la complexité de la tâche du programme? Alors, peut-on estimer le délai d'un projet qui est différent de la quantité d'effort? Pourquoi elle est différente? Parce que peut-on dire que l'effort est élastique? C'est-à-dire que si on estime que pour faire un logiciel, il faut 100 hommes moins, c'est-à-dire non 10 mois, est-ce que ça peut se faire aussi avec 100 personnes pendant un mois, par exemple? C'est une question. Bah, de toute façon, nous sur la chaîne, en parallèle, on peut produire 10 voitures, au lieu de 10 voitures en un jour, sous 10 chaînes, on peut produire 10 voitures en une heure et demie, quoi, enfin, en un dixième de jour. Donc, peut-on formaliser, peut-on poser a priori un objectif de fiabilité du logiciel? C'est-à-dire savoir a priori qu'il va avoir un certain nombre de dysfonctionnements qui vont quand même rester. Peut-on évaluer, estimer l'effort de vérification, évaluer par exemple la conformité à ses spécifications, hein? Peut-on estimer a priori donc l'effort de maintenance, c'est-à-dire l'effort qu'il faudra mettre après pour corriger ces bugs résiduels, enfin, ces dysfonctionnements résiduels. Donc, toutes ces questions, c'est seulement une question, en fait. Existe-t-il une méthode effective, c'est-à-dire un processus formalisé, qui est capable de, qui peut être conduit par n'importe qui, hein, qui permet de donner une réponse à toutes ces questions, c'est-à-dire donner une estimation de l'effort, du délai, de la fiabilité. Ce processus, évidemment, non seulement doit exister, il doit être donc calculable, hein, là, on parle un peu, introduit des termes techniques, non seulement calculable, en termes de logique, hein, il doit y avoir une procédure effective qui le fait, parce que sinon il n'est pas objectif, sinon il revient à la subjectivité de celui qui le fait, mais il doit être, c'est-à-dire, non seulement il doit être calculable formellement, mais si pour le calculer il faut des ressources énormes, et il faut un temps infini, enfin un temps très grand, chose qui est très facile d'atteindre, hein. Il est très facile d'atteindre des complexités qui dès l'âge de l'univers, enfin un temps de le temps c'est l'âge de l'univers, hein. Alors dans ce genre de choses. Donc il faut qu'il soit traitable. En plus on se met dans la perspective de la rationalité, c'est-à-dire on va pas avoir une rationalité optimisante, on va pas se dire on veut la meilleure évaluation, le meilleur effort, le meilleur. On en veut un qui nous satisfait, enfin qui a des critères de satisfaction. Est-ce que peut-on le faire? J'y vais très rapidement, hein, parce que je n'ai pas le temps. En s'appuyant sur des résultats de la théorie de la complexité algorithmique de l'information, qui est une discipline qui est entre les mathématiques, la logique mathématique et l'informatique théorique, disons, pour la situer. Qui a commencé dans les années 60, et qui traite justement, c'est une espèce de physique de l'information, hein, il traite de la complexité de l'information. En fait, il traite de la complexité, combien d'informations il y a dans un objet, par exemple. Hein, il fait ce type de raisonnement. Suite à ces résultats, qui sont quand même assez intéressants, on ne peut pas faire tout ça, pour des raisons fondamentales. C'est-à-dire que j'y vais rapidement, hein. On ne peut pas une méthode effective pour, étant donné la spécification d'une tâche quelconque, pour calculer la longueur du plus petit programme qui peut accomplir cette tâche. Ce truc-là est incalculable, c'est-à-dire que il n'y a aucune méthode pour la calculer. Hein?